Aimables auditeurs de la radio, je suis avec vous. C'est votre vieux frère Michelin Verne. Je ne vous connais pas tous de visage, et c'est le réciproque. Cependant, vous m'êtes déjà tellement cher que je ne sais par quel mot vous introduire la dévotion d'aujourd'hui. À la vérité, il n'est pas nécessaire de m'avoir vu, ni moi-même non plus de vous avoir vu, ou bien de vous connaître et réciproquement, pour que nous apprenions à nous aimer les uns les autres, l'un l'autre, l'un l'autre. Nous sommes contents. Pourquoi? Jésus-Christ nous a réunis par la croix. Pourquoi la croix? Et qu'est-ce que la croix? La croix, deux bois mis ensemble. Et remarquez, deux bois durs. Moi-même, je suis un personnage au cœur dur. Vous aussi, à certains égards, peut-être mon cœur est plus dur que le vôtre. Tout de même, parce que le sang de Jésus-Christ a coulé, il a l'efficacité de nous ramollir les cœurs. Ainsi, unis en Jésus-Christ, je vous souhaite une très cordiale bienvenue dans le Seigneur. Comme vous aussi, pouvez me réserver un bon accueil. Pourquoi pas? Parce que notre Dieu veut nous bénir tous. Nous avons des problèmes en ce bas monde. Il veut nous consoler tous. Et le livre du prophète Ésaïe a été écrit dans ce but aussi, consoler le peuple de Dieu, consoler les enfants de Dieu. Ainsi, pour maintenant, nous allons voir un beau sujet ensemble. D'ailleurs, si vous n'écoutez pas, à qui parlerai-je? Et si quelqu'un ne vous parle pas derrière ce micro, qui écouterez-vous? En tout cas, dans le Seigneur, nous sommes frères. Nous sommes frères et sœurs, nous voulons le demeurer et nous voulons voir notre Dieu ensemble. Une fois de plus, Frère Verne et son équipe vous souhaitent une très bonne étude, une très bonne écoute, une très bonne compréhension dans le Seigneur Jésus. Bien chers amis, Robert Oppenheimer, qui supervisa la création de la première bombe atomique, fit une apparition un jour au Congrès américain aux États-Unis. On lui demanda s'il existait une défense contre cette arme. Certainement, répliqua le grand physicien. Et c'est Robert Oppenheimer contempla l'auditoire attentif et dit doucement la paix. En effet, la paix est pour l'humanité un rêve insaisissable. On a estimé que depuis le début de l'histoire, telle qu'elle a été consignée par écrit, le monde n'a été totalement en paix qu'environ 8% du temps. Pendant ces années-là, au moins 8 000 traités ont été brisés. Pendant le dernier siècle qui a suivi la fin de la Première Guerre mondiale, la guerre qui devait mettre fin à toutes les guerres, il y a eu 2 minutes de paix pour chaque année de guerre. En 1895, Alfred Nobel, l'inventeur de la dynamite, a créé une récompense particulière pour les personnes ayant le plus contribué à la paix. Ces dernières années, cependant, même des prix Nobel de la paix se sont trouvés impliqués dans des conflits violents. Nous, du temps présent, que le bon Dieu veut avec lui, dans son royaume, celui qu'il va instaurer bientôt, il nous invite à la paix. C'est pourquoi il veut nous consoler. Et en vue d'arriver à cette consolation ineffable, il nous propose, ou bien il nous a proposé, le meilleur de ce qu'il pouvait avoir. C'est le trésor même de l'univers, celui dont le ciel dispose, et rien que lui, Jésus-Christ, un noble prince de paix. Un noble prince de paix, c'est le titre du sujet que nous nous sommes proposés d'examiner avec vous au cours des minutes à nous accorder. Pourquoi ce titre, un noble prince de paix? Je ne peux que vous rappeler quelques sujets que nous avons déjà vus dans le courant de ce trimestre. D'abord, une crise identitaire, ensuite une crise gouvernementale, après, quand le monde s'effondre autour de soi, enfin, le chemin le plus ardu. Ces quatre titres ne semblent pas proposer la paix. C'est pourquoi notre sujet du moment, c'est un noble prince de paix. Pourquoi alors un noble prince de paix? Précisément, c'est par opposition à un autre prince, un autre roi. Scélérat, celui-ci. Et la première partie de notre sujet s'intitule « La fin de la désolation en Galilée ». La fin de la désolation en Galilée. Pourquoi ce genre de titre? Pourquoi cette appellation? La Galilée est au nord de la Palestine. Elle est séparée de la Judée au sud par la Samarie, en sorte que la Samarie est située entre la Galilée et la Judée. C'est pourquoi nous avons lu trimestre dernier dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4, versets 1 et 2. J'estime que vous vous l'êtes rappelé, ou du moins je vais vous rafraîchir la mémoire. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Ainsi, quand on est en Judée et qu'on veut aller en Galilée, il faut traverser la Samarie, parce que cette province est au centre. Et les Galiléens au nord, que s'était-il passé? Vous vous rappelez, week-end dernier, je vous ai parlé du roi Akaz. Celui-ci a été attaqué par les rois de Samarie et de Syrie, et il avait appelé à son secours le roi d'Assyrie. Vous vous rappelez cela? Le roi d'Assyrie est venu effectivement, et dans 2 rois, chapitre 15, versets 27 à 29, 2 rois 15, versets 27 à 29, particulièrement le verset 29, nous lisons « Du temps de Pekak, roi d'Israël, Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, vint et prit Ijon, Abel, Beth Maaka, Janouak, Kedesh, Atsor, Galaad et la Galilée, tout le pays de Nephtali, et il amena captifs les habitants en Assyrie. Ainsi, Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, est venu au secours de Akaz, le roi de Judée, ou bien le roi de Juda, et ce roi d'Assyrie amena captifs en Assyrie les habitants de la Galilée dans leur ensemble. Toutefois, il laissa quand même un certain pourcentage des habitants de cette zone. Et après son départ, des Syriens sont venus demeurer dans le pays. Au travers des siècles, des gens d'autres nationalités sont venus parce que c'était une très belle contrée, au point que, au temps de Jésus, il y eut en Galilée un mélange de peuples. Oui, un mélange de peuples. Toutefois, au milieu d'eux, les Juifs avaient conservé leur identité. Au temps de Jésus, je parle d'identité nationale. Et c'est pourquoi aussi, nous allons lire dans Ésaïe chapitre 8, à partir du verset 23, Ésaïe 8, à partir du verset 23, jusqu'au chapitre 9, le verset 4, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la vallée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Ce texte que nous venons de lire décrit une situation sombre à propos de la Galilée, parce qu'il est bien dit le peuple qui marchait dans les ténèbres et dans la vallée de l'ombre de la mort voit une grande lumière. Ce peuple habite la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain. C'est le territoire des gentils. Oui, le territoire des gentils. Et ce peuple connaît aussi une certaine désolation. Pourquoi tout cela? Parce que ce peuple, composé de différentes ethnies, ne pouvait pas s'entendre réel, ou plutôt il n'y avait pas de paix réelle au milieu de cette population. De temps en temps, des zizanies entre voisins, zizanies entre quartiers, et même de la guerre intestine entre régions différentes, donnaient des problèmes en Galilée. Alors, il faut aussi reconnaître que, même au temps du prophète Ésaïe, les premiers Galiléens de l'époque d'Akaz, par exemple, aimaient et pratiquaient l'occultisme, la magie, les arts noirs. C'est pourquoi le prophète Ésaïe, après les avoir exhortés dans Ésaïe 8 et autres, a écrit « J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de roi pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis, il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Sur les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Il s'agit de Jésus-Christ, sans conteste. C'est lui que le prophète a prévu et qu'il a annoncé. C'est lui qui devait venir pour établir de l'espérance, pour rétablir de l'espérance en Galilée. Car la condition désespérée de ceux qui se tournent vers l'occultisme plutôt que vers le vrai Dieu est toujours critique. Partout où ils se tournent, ils ne voient que la détresse, l'obscurité et de sombres angoisses et sont repoussés dans d'épaisses ténèbres. En revanche, il viendra un temps où ce ne sera plus l'obscurité pour le pays qui était dans l'angoisse. Les habitants de la Galilée sont ici désignés comme un peuple qui recevra une bénédiction particulière, une grande lumière. La nation se multipliera et se réjouira parce que Dieu aura brisé le bâton de son oppresseur. De fait, la région du lac de Galilée est décrite ici parce qu'elle a fait partie des premiers territoires d'Israël conquis, je vous l'ai dit. En réponse à la demande d'aide d'Akaz, Tiglath-Pileser s'est emparé de la Galilée et de la Transjordanie au nord d'Israël, amenant une partie de la population en captivité et faisant de ces territoires des provinces assyriennes. C'est pourquoi, d'après le message d'Ésaïe, la première région conquise serait la première à être libérée par l'Évangile. Ainsi, ce n'est pas par hasard que Jésus a débuté son ministère en Galilée, où il a soulevé l'espérance en annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu et en guérissant des gens, y compris en délivrant des démoniaques des liens de l'occultisme. Je vais vous lire quelques versets plus tard. Nous voyons ici un exemple parfait de la façon dont la Bible se sert d'événements survenant à l'époque de l'Ancien Testament pour préfigurer ce qui se passera à l'époque du Nouveau. Le Seigneur a mélangé les images d'une époque avec celles d'une autre, comme dans Matthieu 24 où Jésus superpose la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ avec la fin du monde, la fin de la désolation. Jésus, prêchant en Galilée, a apporté la fin de toute désolation spirituelle et ténébreuse afin que des gens puissent avoir de l'espérance et aussi une assurance. Maintenant que cela est dit, un noble prince de paix, c'est notre sujet. Et la deuxième partie de notre leçon s'intitule « Un enfant spécialement pour nous. Un enfant spécialement pour nous. Pourquoi ce titre? Vous vous rappelez, dans un sujet antérieur, nous avons vu le prophète Ésaïe être invité par l'Éternel à se rendre auprès du roi Akal avec son premier fils, Shéa-Jachub. Ensuite, le Seigneur avait demandé au roi, par son prophète, de réclamer un signe en sa faveur. Celui-ci a refusé et le prophète lui a quand même proposé un signe, savoir que la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel. Enfin, dans Ésaïe chapitre 9, versets 5 et 6, il nous est parlé d'un autre enfant. Ici, la troisième naissance particulière du livre du prophète, après la mention des naissances d'Emmanuel et de Maher, Shalal, Ash, Bas. Une question. Qu'a de particulier l'enfant dont il est parlé dans Ésaïe 9, versets 5 et 6? Avant de répondre, je vais vous lire Ésaïe 7, verset 3, là où l'Éternel a demandé au prophète Ésaïe de se rendre auprès du roi Akaz avec son fils. Ésaïe 7, le verset 3. L'Éternel dit à Ésaïe, « Va à la rencontre d'Akaz, toi et Shéa-Jachub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon. » Dans notre étude, dans une étude antérieure, nous avons vu que cet accompagnement, c'était pour rassurer le roi Akaz que la coalition Syrie-Samarie contre Juda ne réussirait pas. Le deuxième enfant est mentionné dans Ésaïe chapitre 7, versets 14 à 16, où il est dit, « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. La jeune fille deviendra enceinte. En effet, cela s'était produit, car dans Ésaïe 8, versets 1 à 4, Ésaïe 8, 1 à 4, l'Éternel me dit, « Prends une grande table et écris dessus d'une manière inintelligible, qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Je pris avec moi des témoins dignes de foi, le sacrificateur Uri et Zacharie, fils de Bérékia. Je m'étais approché de la prophétesse. Elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Maher, Shalal, Kash, Bas. Car avant que l'enfant sache dire, mon père, ma mère, on emportera devant toi. On emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. » Bien, chers amis, chaque fois que l'on lit Ésaïe chapitre 7, le verset 14, savoir que la jeune fille deviendra enceinte et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, nous tous, nous pensons au Seigneur Jésus. En effet, c'est vrai. Cependant, je vous l'ai dit le week-end dernier, que cette prophétie avait ou bien a une double connotation. D'abord, un enfant qui devait naître du temps du prophète Ésaïe lui-même. Ensuite, l'enfant Jésus que nous connaissons. Mais vous pouvez me dire, Comment Frère Verne et d'autres personnages ont-ils pu savoir que Ésaïe 7 concerne le temps du prophète Ésaïe lui-même et particulièrement l'enfant qui sortirait des entrailles d'Ésaïe? Nous comparons seulement Ésaïe 7, 16 avec Ésaïe 8, 4 pour nous en donner l'évidence. Ésaïe 7, verset 16 dit, Avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Ensuite, chapitre 8, versets 3 et 4, Je m'étais approché de la prophétesse. Elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, Donne-lui pour nom Maher, Chalal, Cash, Bas. Car, avant que l'enfant sache dire mon père, ma mère, on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. Chapitre 16, verset 7 parle du pays dont Akaz craint les deux rois, et ce pays sera abandonné. Chapitre 8, verset 4 parle du roi d'Assyrie devant lequel on emportera les richesses de Damas et le butin de Samarie. En effet, Damas, capitale de Syrie, et Samarie s'étaient soulevés contre Akaz. Ce sont ces deux pays dont on emportera les richesses devant le roi d'Assyrie et dont Akaz avait grande crainte. Ainsi, le signe selon lequel la jeune fille deviendrait enceinte et enfanterait un fils auquel on donnerait Emmanuel concernait d'abord le temps du roi Akaz. De même que le premier fils du prophète Ésaïe, savoir Shéa-Jachub. Cependant, la partie de la leçon que nous étudions parle d'un enfant spécialement pour nous. Un enfant spécialement pour nous. Comment reconnaissons-nous qu'il s'agit d'un enfant spécialement pour nous? Dans Ésaïe 9, versets 5 et 6, le temps des verbes employés montre bien qu'il ne s'agit pas de l'époque d'Akaz. Il est dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et la soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ainsi, le prophète a utilisé le futur pour décrire une action de grande envergure. Et si la chose concernait son temps, il emploierait certainement le présent selon son habitude. En considérant à nouveau le texte en entier, nous allons faire une constatation particulière. Cette fois-ci, lisons Ésaïe 8, 23 jusqu'à Ésaïe 9, verset 6. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Que constatons-nous? Trois versets de Ésaïe 9 commencent par le même terme, car, car, car. Le premier car et le second est différent du second. Le premier car est différent du second. Le car du verset 3 marque une cause. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car, ou bien, parce que le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Ainsi, le premier car marque une cause et signifie parce que. Mais le deuxième car, chapitre 9, le verset 4, marque plutôt une conséquence et signifie c'est pourquoi. En effet, quand nous disons, tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi comme se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car parce que le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. En conséquence, car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Il y a aussi un troisième car au verset 5. Et le car du verset 5 est pareil à celui du verset 3. Celui du verset 3 exprime une cause, de même celui du verset 5 exprime aussi une cause. Conséquence, toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu, parce que un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Vraiment, c'est un enfant spécialement pour nous. Ce libérateur porte différents noms ou épithètes, le décrivant sous divers aspects. Dans le Proche-Orient antique, les rois et divinités portaient des noms multiples en témoignage de leur grandeur. Il est appelé merveilleux, tout comme l'ange divin du Seigneur, qui déclara à Manoah, le père de Samson, qu'il porte un nom merveilleux. Juge 13, verset 18. Cet ange montera au ciel dans les flammes de l'offrande dressée sur l'autel du Seigneur par Manoah. Juge 13, verset 20. Et cette offrande préfigurant, ou plutôt ce miracle, savoir l'ange montant dans les flammes, préfigurait ainsi l'offrande qu'il ferait de lui-même près de 1000 ans plus tard. On mentionne qu'il est divin, Dieu fort, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est un roi de la dynastie de David, son royaume de paix sera éternel. Son royaume de paix sera éternel. Mon bien-aimé, la fin de la désolation en Galilée ne pourra se faire que par l'enfant qui viendra spécialement pour les Galiléens d'abord, ensuite pour nous. C'est pourquoi On nous parle aussi du bâton de la colère de Dieu. Je dis pour les Galiléens d'abord. En effet, nous lisons dans Matthieu 4, versets 23 à 25. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Décapole, de la Galilée, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Je tiens à vous dire que le ministère public du Seigneur Jésus, après son baptême et le changement de l'eau en vin à Cana, plutôt après son baptême, commença en Galilée. Oui, en Galilée. Cana, ou plutôt Capernaum, est en Galilée. Cana aussi. Le discours sur la montagne, c'était une montagne de la Galilée, prononcée par Jésus, là où il prononçait ses béatitudes, là où il a montré la stabilité ou bien l'immutabilité de la loi. Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, et même jusqu'à verset chapitre 8. Eh bien, tout cela, c'est le début du ministère de Jésus en Galilée. Un ministère de libération, un ministère de guérison, un ministère de consolation et un ministère de restauration. Un noble prince de paix, par opposition à Achaz le scélérat. En effet, Achaz marcha dans les voies des rois d'Israël. Et même il fit des images en fonte pour les Baals. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnon, et il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sur tout arbre vert. Mais le noble prince de paix, lui, l'Esprit de l'Éternel reposa sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respira la crainte de l'Éternel. Il ne jugea point sur l'apparence. Il ne prononça point sur un oui-dire. Mais il jugeait les pauvres avec équité et il prononçait avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappait la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il faisait mourir les méchants. Lequel alors? C'est le même enfant spécialement pour nous. C'est le rameau sorti d'Ésaïe, et dont nous parle, sorti d'Ésaïe, et dont nous parle le prophète Ésaïe au chapitre 11 de son livre. Mais juste avant, voyons comment Dieu a châtié les méchants. Le bâton de la colère de Dieu. En effet, du temps d'Akaz, Dieu a envoyé 3 châtiments pour voir jusqu'à quel point le peuple était dur ou bien endurci, et pour essayer aussi de le sauver. Premier châtiment, Ésaïe chapitre 9. Versets 10 et 11. Ésaïe 9, versets 10 et 11. L'Éternel élèvera contre eux les ennemis de Ritsin, et il armera leurs ennemis, les Syriens à l'Orient, les Philistins à l'Occident, et ils dévoreront Israël à pleine bouche. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Ici, c'est la guerre qui doit ravager le pays afin que les habitants se tournent vers l'Éternel. Premier bâton de la colère de Dieu. Deuxième bâton, c'est Ésaïe 9, versets 12 à 16. Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe et il ne cherche pas l'Éternel des armées. Aussi, l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau en un seul jour. L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Ceux qui conduisent ce peuple égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. C'est pourquoi le Seigneur ne saurait se réjouir de leurs jeunes hommes, ni avoir pitié de leurs orphelins et de leurs veuves, car tous sont des impies et des méchants, et toutes les bouches pour faire des infamies. Malgré tout cela, la colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Qu'avait-il fait? Cette fois-ci, c'était la déportation. Dieu a pris le peuple pour l'emmener loin de son pays. En dépit de tout, il ne s'est pas converti. Alors, le troisième bâton au châtiment, Ésaïe 9, versets 18 à 20, par la colère des armées, de l'Éternel des armées, le pays est embrasé et le peuple est comme la proie du feu. Nul n'épargne son frère. On pille à droite et l'on a faim. On dévore à gauche et l'on n'est pas rassasié. Chacun dévore la chair de son bras. Manassé dévore Éphraïm, Éphraïm Manassé, et ensemble ils tondent, et ensemble ils ondent sur Juda. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Cette fois-ci, c'est la famine. Mais le peuple demeure comme il a toujours été. Ainsi, malgré le bâton dont le frappait Dieu, ou bien le bâton de la colère de Dieu, les différents bâtons, il a reçu ses coups de bâton, mais c'est comme si rien n'était. Le peuple demeure tel qu'il était. Pourquoi notre sujet est-il développé dans le cadre d'une comparaison avec Akaz? Comparaison de Jésus, l'enfant spécial pour nous, avec Akaz, le roi impie. Parce que précisément, les deux descendaient d'Isaïe. Akaz était descendant de David, descendant d'Isaïe par David. Isaïe était le père de David. De même, Jésus-Christ descendait d'Isaïe par David. Jésus est de la postérité de David. Maintenant, le prophète a voulu établir la grande différence entre l'impiété criante d'Akaz, quand même descendant d'Isaïe et de David, et la piété exceptionnelle de Jésus, lui aussi descendant d'Isaïe et de David. Alors, le prophète a voulu montrer que ce n'est pas la descendance qui rend mauvais, mais c'est plutôt la nature qui rend mauvais ou bon, mais plutôt la nature même de l'individu. Jésus viendra, ce sera le rameau tendre d'Isaïe qui apportera la consolation à tous et exercera la justice, l'équité et la droiture, tandis que Akaz, l'impie, apportait la guerre, l'injustice, l'impiété et toutes sortes de méchancetés. Bien-aimés, ne pensez pas que votre affiliation raciale peut vous ennoblir ou bien vous condamner. Non, ce n'est pas cela. Un seul sujet d'ennoblissement, c'est Jésus par la Bible, ou encore la Bible à partir de Jésus.